Le midi.
8h59, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Ça fonctionne par texto. C'est 11 degrés sur Québec. Ça se réchauffera pas aujourd'hui. Je vous l'annonce. Breaking news. Un maximum de 15 pour ce soir. C'est nuageux avec un 30% de probabilité d'averse ce soir et cette nuit. Minimum de 9 degrés pour ce qui est de demain vendredi. Encore là, c'est de la pluie intermittente avec des petites rafales en matinée à 50 km/h. Température stable à près de 9 degrés. Et samedi, c'est de la pluie intermittente, maximum de 8. Dimanche, c'est le retour du soleil, Pascal. Alternance soleil-nuage avec un 40% de probabilité d'averse, maximum de 15 degrés. Mathieu Thomassin, chroniqueur automobile, est au bout du fil. Salut mon ami!
Oh que oui! Salut à tous les auditeurs et mes animateurs préférés, mais j'ai une suggestion. Ce serait bien d'avoir un cue avant que je rentre en onde, avant que je lâche de quoi qui pourrait scandaliser des gens.
Ah. J'ai eu peur, c'est pour ça que je me suis affolé en arrière.
La bonne nouvelle, c'est que c'est moi qui gère les pitons, puis je te connais.
C'est bon.
Je sais quand ouvrir mon piton.
Parlant de fermer piton, tu fermerais-tu bien celui-là, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Pourquoi?
Merci, t'es fin.
Qu'est-ce qu'il y a?
Peux-tu encore le fermer, s'il te plaît?
Ça te travaille.
Mais c'est parce qu'on va m'entendre vraiment plus fort que toi.
Non, pas du tout.
Mais il était là.
C'est pas du tout.
Sinon, je peux le mettre à...
Bon, mon but n'était pas de causer de la chicane avec les pitons,
non.
là.
Exact. Hey, Matt, le oui. RAV4, le nouveau RAV4 a été annoncé mardi soir. Puis ça a l'air que mercredi, il n'y avait plus de RAV4. Il avait tout été volé. Pourquoi tout le monde trippe sur ce véhicule-là, incluant les voleurs de char?
Le RAV4 est un véhicule fort populaire avec une valeur de revente assez incroyable. C'est un des véhicules qui jouit d'une fiabilité assez exemplaire. Je suis d'accord qu'on a eu le Cable Gate, mais en même temps, au travers, le RAV4 a su s'adapter à sa clientèle. Pourquoi? En offrant des versions de base, bon, dans l'abordable, surtout avec la fiabilité, dans l'idée de le garder 15 ans de temps. Non seulement l'espace, la logeabilité, bon, technologie, des fois, on doit se rattraper un peu. Mais on avait aussi adapté avec des modèles hybrides branchables, des modèles trail pour aller un peu plus loin dans le bois toujours aussi. Et on a juste écouté la clientèle, ce qu'ils voulaient. Et là, en 2026, on arrive avec un nouveau chapitre qui est totalement électrifié et on passe vraiment à une vitesse là, qu'on peut dire supérieure parce que la sixième génération est offerte entièrement électrifiée. On a une version hybride, on a une version hybride rechargeable avec de l'autonomie qui est améliorée. Et parmi les grandes nouveautés, qu'est-ce qu'on arrive? C'est avec une version GR Sport, une version sportive qui est exclusivement en hybride branchable, dans lequel on a développé en collaboration avec Toyota Gazoo Racing. Et là, Gazoo Racing, ben, c'est une équipe de course de Toyota.
Ça s'appelle Gazoo?
Oui, Gazoo Racing, GR Toyota. Okay. En passant, c'est une machine qui va aller chercher jusqu'à 320 chevaux vapeur. Ça commence à être quelque chose d'un petit RAV4. Et l'autonomie pour cela, parce que, tu sais, on se le cachera pas. Toyota a créé une licorne aussi avec le RAV4 Prime qu'on appelle. Le RAV4 Prime était tellement disponible en peu d'éditions que tout le monde s'est garoché là-dessus. Les valeurs avaient augmenté. On était dans une période aussi où est-ce qu'on ne veut plus parler de ces années-là. Donc, ça créait de la disparité. Mais présentement, on parle d'une autonomie qui peut grimper jusqu'à 80 km. Ici, c'est la même chose que le précédent modèle. D'après moi, on pourrait toucher aux 100 km purement électrique avec ce véhicule-là. C'est une bonne amélioration de 20 % par rapport à une version là, de génération précédente. Et pour les grands amateurs de tout ce qui est le hors-route, un peu si on veut, on a créé une édition là, qu'on appelle Woodland, qui est comme robuste. Avec des pneus tout-terrain, une garde au sol relevée. La seule affaire que je me suis rendu compte, c'est que du côté canadien, on le rend disponible uniquement en version hybride. Et du côté américain, hybride et hybride branchable. J'aurais aimé avoir la version hors-route en hybride branchable, cependant, de mon côté. Mais je dois vous dire que c'est quand même assez intéressant. Le look, il est beau, il est différent. Toyota a aiguisé énormément son coup de crayon dernièrement. Ce qui fait qu'on devrait rester au sommet des ventes et de la désirabilité du véhicule.
Ouais. Mais pour ce qui est du look, ils n'ont pas réinventé un nouveau RAV4. Là. Ils se sont basés sur ce qu'il y avait puis ils ont ajouté quelques courbes.
Oui, mais je dois te dire que ça fait du bien. Puis tu sais, c'est difficile de réinventer le style de A à Z d'un véhicule sport utilitaire de ce temps-ci. Hyundai le fait énormément. Là, on y reproche que des fois, ils en font trop. Du côté Toyota, on se rapproche du côté un peu plus sportif, racé. La calandre à l'avant est quand même assez unique au produit Toyota, mais c'est sûr que l'arrière, on a un petit peu d'inspiration classique des autres véhicules sport utilitaires qui, ma foi, viennent qu'à tous se ressembler avec la presque commune barre de LED en arrière. Il y en a qui parlent un peu d'inspiration de Nissan Rogue. D'autres aussi contestent un petit peu la position du port de recharge à l'avant, à droite du véhicule. Écoutez, rendu là, c'est de l'utilité, mais je dois avouer que ce n'est pas un véhicule qui est laid, surtout pas dans sa version la plus sportive, mais j'ai un coup de cœur plutôt pour la version vraiment robuste, là, la version Woodland, qui va vraiment aller un petit peu plus loin en mode hors-route. Okay.
Quand tu as parlé de la consommation, parle-moi de la consommation en ville versus sur route. On est-tu dans le 7-8 litres au 100?
Ben, présentement, la chose qui va être difficile, c'est d'évaluer la consommation de ce véhicule-là présentement. Toyota s'est fait un petit peu avare au niveau des détails. Mais c'est sûr que si on regarde, disons, un RAV4 classique comme on a présentement là, le modèle hybride sortant 2025, là, on parlait d'une consommation de 5,8 litres au 100 en ville et 6,3 sur l'autoroute. Si vous allez avec une version à motorisation qui était régulière, on parlait de 8,7 et 6,9. Mais vu qu'ils vont tout être hybrides, c'est sûr qu'on va faire un bond quand même assez gros là, présentement au niveau de la consommation. Et Toyota est toujours un des leaders présentement avec leurs systèmes hybrides qui sont efficaces, mais non seulement aussi très performants. Un RAV4 Prime, je te le dis tout de suite, il y a certaines voitures sportives qui devraient craindre en ligne droite ce véhicule-là. Mais inquiétez-vous pas, à la première courbe, là, c'est là qu'on va voir si le conducteur et le chauffeur du RAV4. Et bien souvent, ils ne le sont pas, donc ils lâchent la pédale avant.
Puis qu'est-ce qui pousse une entreprise comme Toyota à présenter le nouveau RAV4, nous exciter comme pas possible si on est un consommateur de Toyota, mais pas mentionner les gammes de prix?
Ça, c'est toujours un classique. Il ne faut pas oublier que souvent, on veut lancer en grande pompe, créer un buzz médiatique. Ensuite va venir l'annonce de la consommation, mettons exact. Ensuite va venir l'annonce des prix. Et ça, c'est une stratégie qui est toujours un peu particulière. Il ne faut pas oublier que c'est un véhicule qui est annoncé pour l'année prochaine. On est déjà quand même assez tôt, disons à la mi-année là, qu'on approche. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est qu'il peut y avoir un paquet de facteurs qui peut influencer les prix. Et souvent, le manufacturier n'est pas con. Ils vont regarder l'attrait que le véhicule génère. Ils vont regarder les tendances un peu. Puis ils vont même peut-être jouer avec les prix ou encore avec les finalités de certains groupes d'équipements pour les différentes offres. Donc, on se lance, mais des fois, on ne se lance pas trop. On accueille. Si les gens adorent le véhicule, ben écoute, on va peut-être saler la facture un peu plus. Si les gens détestent le look, le style, on va peut-être dire, hey, ouais, il est peut-être temps qu'on le rende plus abordable. Et c'est une stratégie qui, selon moi, est assez particulière.
Est-ce qu'on va les jouer dans le 50, 60 000?
Facile.
Facile.
Oui, facile parce que si vous regardez les prix actuels d'un RAV4, disons, pleinement équipé, on touche à 51 000 $ PDSF. Je ne vous l'ai même pas financé. Je ne vous l'ai même pas ajouté avec tout ce qui vient avec de transport, de préparation, de taxes, puis ça. Et une version de base qu'on appelle un LE 2025 part à 37 000 bâtons. C'est rendu très cher les véhicules. Et on a une gradation qui est quand même assez extrême. L'autre chose aussi qui est très importante, c'est de savoir que leur licorne, leur RAV4 Prime, bon, je l'ai dit tantôt, a eu certaines problématiques de disponibilité au travers de tout ça, mais ce n'était pas non plus un modèle qui était vraiment donné. On avait créé un prix de départ quand même assez haut de ce côté-ci. Et là, la grande question qui revient tout le temps, « Ouais, mais Matt, il va-tu être plus cher? » La réponse, c'est toujours plus cher. De ce temps-ci, il n'y a rien qui s'améliore côté prix. Fait que c'est sûr que si vous regardez pour un RAV4 hybride branchable, ben dites-vous que la version XSE All-Wheel Drive a un PDSF de 60 000 bâtons. On n'a même pas ajouté le groupe technologie qui ajoute quand même des équipements comme le toit panoramique, les 11 haut-parleurs, tout ce qui est au niveau de l'affichage tête haute, voire même des sièges ventilés à l'avant. Donc, dites-vous que, d'après moi, celui-là va facilement se détailler de peut-être 1500 à 3000 $ de plus pour le véhicule. Puis si on monte le prix de base qui touche aux 40, je ne serais pas surpris parce que de ce temps-ci, la planète Terre explose avec des prix sans cesse grandissants. Et n'oubliez pas aussi que vos immatriculations, assurances, ça, on commence à en parler beaucoup plus. Pourquoi? car il est rendu extrêmement cher de réparer un véhicule. Un impact d'une roche sur un de ces beaux pare-chocs-là modulaires aujourd'hui coûte un prix de fou. Et sans oublier que pour ceux-là qui utilisent du LED à la grandeur, s'il y a un LED qui brûle, c'est bien de valeur, mais on ne va plus au Tican Tower pour aller chercher une petite ampoule H3 pour aller mettre là-dedans. Ça ne marche plus comme ça. Donc, c'est ça qui est là le challenge aussi, de conserver les prix le plus bas possible. Et on va devoir peut-être, un de ces quatre, revenir à la base, hein, de recréer une voiture du peuple. Je pense qu'il y aurait un attrait majeur, parce qu'encore, dans les commentaires que je lisais sur mon site, beaucoup me parlaient de le Corolla 2002. Est-ce qu'on veut reculer tant que ça? Peut-être pas, mais dites-vous qu'une compagnie de camions abordables, qu'on pourra parler dans une autre chronique, ouais, qui est revenue à la base, de même pas d'écran. C'est ton cellulaire qui est un écran dans le camion. Ça va être intéressant.
Oui, puis est-ce que ça a été approuvé par les policiers, ça? C'est-tu des choses qui ont été discutées?
Bien, effectivement, c'est des choses qui ont été discutées. Ça va pouvoir être lancé, mais écoutez, cette discussion-là aussi revient constamment. Toyota a même des produits comme le Hilux, qui est beaucoup plus de base, beaucoup plus moins cher dans d'autres pays, dans lequel on ramène la camionnette compacte à un prix abordable. Mais ici, du côté américain, on consomme. Hein? Puis tu sais, chaque fois que je vois un commentaire comme ça, je te dirais que ce qui revient, c'est qu'on rediscute des besoins d'ici. On se rend compte que les gens, au lieu encore d'aller vers une automobile compacte abordable, se disent « Ah ben tant pis, je vais aller dans le sport solitaire. » Puis cette semaine, aussi, dose de réalité, une collègue m'écrit et elle me dit « J'ai besoin de changer de pneus sur mon Hyundai. » On regarde, modèle limited, en location. On est arrivé en plein milieu de la location, donc il faut qu'elle change de pneumatique. Ce sont des pneus de 19 pouces. La facture est de 2000 bâtons pour un véhicule qui est loué, qui est pas à toi.
Quand même.
À un moment donné aussi, il va falloir, faut que vous réfléchissiez comme il faut,
oui,
à la direction que vous prenez au niveau de la dépense, de l'entretien et tout. Puis le camion, en passant, qu'on parle qui est modulaire, qui n'est pas trop cher, c'est le camion Slate. Donc, on aura la chance d'en reparler. Je me mets en note pour la prochaine chronique.
Parlant de véhicules du peuple accessible, hier, j'étais sur Pierre-Bertrand. Je suis pas mal certain que je ne suis pas le seul à l'avoir vu, ce véhicule-là, parce qu'il ne semble pas y en avoir beaucoup à Québec. J'ai passé à côté d'une Ferrari Purosang. Ça vaut combien? C'est un genre de 500, 600 000 piastres.
Les voitures de luxe de ce temps-ci, là, qu'est-ce qui arrive? C'est lorsqu'on rend une exception assez majeure. On crée de la rareté. C'est un véhicule, si je ne me trompe pas, qui était muni d'un moteur 6,5 litres, un V12 dans le fond, qui pouvait développer 725 chevaux. Et si je ne me trompe pas, le prix initial de détail est aux alentours de 500 000 $ pour un véhicule comme celui-ci. Ce n'est pas des véhicules que je parle souvent parce qu'on s'éloigne un petit peu des fois là, du véhicule du peuple, comme on dit. Mais je dois avouer que quand on parle d'histoire automobile, quand on parle d'un feeling, quand on parle d'un luxe, quand on parle d'un rêve exotique, c'est sûr que celle-ci est sur la liste. Et je dois avouer que c'est quand même assez particulier de voir les formes qu'adopte ce genre de Purosang-là, parce qu'on parle vraiment d'un genre de coupé sportif là, qui a de l'air mi-VUS aussi au travers.
Ça s'appelle un Purosang. J'avais pas l'accent, ouais, c'est ça.
Purosang, Miami. Moi non plus, je ne l'ai pas. Je m'en allais sur un accent mexicain.
Mais je me pose tout le temps des questions sur ces gars-là et ces filles-là qui s'achètent ce type de véhicule-là sur nos routes. T'sais, encore en fin de semaine, là, j'étais dans un stationnement. Puis, tu sais, moi, j'ai un Jeep Wrangler. Fait que je tombe dans un nid d'autruche, capable de sortir de là facilement. Mais ces voitures-là qui valent 500, 600, 700 000 piastres, les gars, les filles, font-tu comme moi? Ils essaient-tu de les éviter? Je sais pas. Ils fonctionnent comment, eux autres? Là? Parce qu'elle était sur... Ben, cette voiture-là était sur Pierre-Bertrand hier. Mais le gars, ça avait l'air d'être un lundi, là.
Ben, moi, je regarde souvent OnlyFans. Puis je me dis, à un moment donné, il faudrait que je me lance. Mais écoute, sérieusement, je crois que quand tu es rendu là, tu as deux choix dans la vie. Okay? Soit tu achètes ce véhicule-là, tu le remises, tu le mets dans une bulle, puis tu déclares ça comme un genre d'investissement. Je suis d'accord que ça va prendre de la valeur au travers le temps.
Ouais, c'est ça.
Ou encore, tu vis ta best vie, puis c'est-à-dire que tu le conduis parce que tu l'as acheté, puis tu veux l'utiliser. Puis c'est des gens, effectivement, qui ont plus de moyens que toi puis moi rassemblés, peut-être pas Pascal, là. Mais je suis obligé de te dire que la vie est faite pour en profiter, Marceau.
Mais
donc,
la
dans
vie
le monde automobile,
fait...
c'est la même affaire. Fait que si tu as un Porsche 911, ou peu importe quel véhicule de luxe que tu as, si tu veux le rouler en hiver, à fond, mon ami, parce que c'est des véhicules qui sont exceptionnel. Si tu veux éviter les trous sans grande allée, puis tu vis bien avec ça, de plier un Mac ou deux de Ferrari avec les conditions exécrables qu'on a, ben vis bien avec ça aussi.
Mais la vie est faite pour les riches, Mathieu. J'écoutais Luc Poirier.
Okay? Non, mais écoute pas ça.
Puis là, Luc Poirier, dans un podcast, il dit, moi, mes chums, quand il y avait mon âge, là, mettons, il y avait à peu près le même âge, dans la vingtaine, ses chums achetaient du Honda, ils achetaient du Toyota. Il achetait des chars à 50, 60, 70 000 $ puis il dit, après 5 ans, mes chums, leurs chars, ils valaient presque plus rien après 5-6 ans. Il dit, moi, à 25 ans ou 26 ans, j'ai acheté ma première Ferrari, puis il dit, à chaque année, mon véhicule prenait de la valeur.
Non, mais il est intelligent. Il a vu sur quoi il pouvait faire de l'argent. Ouais. Il vivait dans un HLM au début. Puis en passant, là, il y a des pubs là, pour Luc Poirier parce qu'il va avoir une nouvelle émission sur lui, sur Crave. Puis c'est animé par Pierre-Yves McSween. Puis il va lui poser plein de questions. Je vous le dis, ça nous attire d'aller écouter ça, mais je pense aussi que ça va nous faire halluciner. Non,
mais c'est un autre monde, Mathieu. Ouais. Ces gars-là et ces filles-là s'achètent des véhicules de luxe. Tu te dis, mais tabarouette, quelle dépense complètement débile, alors que c'est totalement le contraire.
Il y en a qui
véhicule à eux, c'est de l'investissement.
Oui, mais Marceau, à un moment donné, là, quand tu te rends dans une sphère où ce que tu fais beaucoup plus d'argent que nous, on fait présentement, je pense que ton thinking devient différent. Mais la chose que j'aimerais ramener à la base, est-ce que c'est nous qui ne rêvons pas assez d'opportunités ou qu'on ne tente pas de nous créer des opportunités? Ce que je peux dire, c'est que Luc Poirier a travaillé ses affaires au point tel qu'il est rendu qu'il a quasiment acheté le salon de l'auto Montréal. Hein. On est rendu qu'on appelle ça le salon de l'auto Luc Poirier. Mais ça, c'est Montréal qui réglera ça. Mais je dois te dire que si tu veux quelque chose dans la vie, il va falloir que tu fonces avec tes rêves. Et il va falloir qu'en tant que Québécois, plutôt que de jalouser le désir, l'accomplissement des autres, il va falloir avoir le désir de nous se rendre plus loin et de mettre la main à la pâte pour aller plus loin, comme certains ont fait pour se rendre.
C'est très bien dit, mais c'est ça. Tu sais, ces chums, ils disaient que c'était une folle dépense d'acheter une Ferrari à 25 ans, tandis que lui voyait déjà un investissement. On a peut-être à apprendre quelque chose de ça, comme tu dis. Hey, j'ai des auditeurs qui se sont achetés des voitures dans les derniers jours. C'est le cas de Richard qui dit « Salut la gang, pourriez-vous demander à Matt Thomassin son avis sur Acura TLX type S 2025? Que penses-tu de ce véhicule-là? » Dans le cas de Richard, il va prendre possession de son véhicule vendredi.
Bon, écoute, Acura a tenté avec la TLX, surtout la Type S, de revenir en mode performance. Il y a quand même beaucoup de choses que le véhicule offre pour l'argent à dépenser. Du côté comportement routier, c'est très intéressant aussi, bien entendu, la traction intégrale qui peut être jumelée là, sur un TLX. Tout ce qui est aussi du côté du système de son avec le studio 3D là, qui est à l'intérieur, très intéressant. On n'a pas fait de changement majeur suite à l'année 2024. La seule chose que j'aime un petit peu moins, c'est que ce n'est pas tout à fait aussi rapide que les Allemandes ou encore aussi efficace côté essence présentement, mais c'est un véhicule qui va jouir d'une excellente fiabilité, surtout versus des Allemandes, surtout du passé. Quoique je suis obligé de dire de plus en plus que BMW s'améliore du côté de la fiabilité. Je ne pensais pas dire ça un de ces quatre, mais on le voit. Mais ça reste un véhicule qui est plaisant, qui est surtout beau au look. Faire attention à la hauteur et les grosses roues. On en parlait un petit peu tantôt. On évite les trous. Mais c'est un véhicule au travers du temps là, qu'on va avoir du fun derrière le volant.
Mais c'est vrai que les Acura, ils restent belles longtemps.
Oui, ils restent belles longtemps. Puis il faut dire aussi que les anciennes Acura TL, bon, il y avait des mentions Type S aussi au travers le temps. J'en vois encore quelques-unes sur les routes malgré que... qui commence des fois à être magané, mais le style intemporel d'Acura, j'ai revu une ancienne Integra à vendre sur Marketplace l'autre semaine, puis je la trouvais encore belle. Acura réussit à garder son style, mais la partie sur laquelle on doit travailler, c'est à l'intérieur, toutes les histoires de touchpad, puis de contrôle un peu au niveau du système multimédia, la console centrale, c'est à redessiner. Cependant, Acura et Honda, il faut qu'ils se réveillent présentement. On manque de considération un peu pour le Canada. Ça, c'est ma partie politique. Et on doit revenir à ce qui a marché dans le passé. C'est quoi? Mettre des logos typés, puis faire virer char à 10 000 tours minute. Et non seulement l'inspiration de course, d'efficacité, de fiabilité qu'on avait dans le temps, on doit ramener ça dans un package accessible. Et c'est pas pour rien qu'il y a quelques acheteurs aussi, là, justement, qui regardent la fameuse TLX Type S puis qui tombent en amour avec.
Maintenant, parle-moi du fameux GTI électrifié, là.
Oui, monsieur. Et là, ça nous a surpris pas mal. Le GTI Volkswagen, En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est le CEO de la grande compagnie qui a essayé un modèle prototype de la GTI, donc en développement présentement, et qui a dit tout simplement que ça va être une bête, que ça va être un monstre. On sait, là, il y a certaines voitures aussi au travers du temps qui sont quand même mythiques. La Golf GTI, c'est un véhicule emblématique qui est petit, qui est pratique, qui est rapide. Puis depuis plus, là, d'après moi, une quarantaine d'années, c'est une référence en matière de véhicules destinés, accessibles aux passionnés pour, au sein de la gamme Volkswagen. Puis, de ce que j'entends, l'entreprise ne compte pas mettre une ligne là-dessus ni de gâcher le véhicule. Donc, le prototype, selon lui, il est époustouflant. C'est un autre média qui l'a interviewé. Il ne faut pas oublier, cependant, que la subtilité, c'est quoi? C'est que la future GTI, elle est 100% électrique. Comment que ça peut être excitant? Je pense que Hyundai a réussi à le démontrer avec l'ensemble de sa gamme N au travers de ça. On a réussi à créer un ADN, si on veut. Et là, toujours la question qui revient, c'est au niveau des chevaux. Il ne faut pas oublier que la GTI développait aux alentours de 240 chevaux. Et maintenant, avec le côté électrifié, on va être capable d'y aller en mode stratosphérique. On aura des spécifications un peu plus tard, proche de la date du lancement. Mais dites-vous que le badge aussi GTI, on veut le ramener à la source de ce que c'est, non seulement du côté sportif, et on ne veut pas l'ajouter à n'importe quelle sauce là-dessus. Les voitures électriques, ça peut être amusant. La GTI va devoir s'inscrire. Tout est une question de comment ça va être fait, comment on va sensibiliser les gens au travers de ça, voir comment on va faire une transition puriste. Parce que n'oublions pas que Mustang, avec la Mach-E, a un peu fait l'échec de ça au travers du temps. Mais ne reste qu'on en voit beaucoup de Mustang électriques. Ça allait attirer quand même une autre foule, donc on a hâte de voir la GTI.
Avant de parler de ta future carrière de fleuriste, là, d'autres auditeurs nous écrivent, j'essaie de faire le tri rapidement, Dodge Durango RT 2022. Que penses-tu de ce véhicule, Mathieu?
Bon, écoute, c'est un véhicule qui est spacieux. C'est un véhicule qui est assoiffé. C'est un véhicule qui était quand même très performant. Des capacités de remorquage, je ne me trompe pas, qui étaient au-dessus de 8000 livres. Mais ce qu'on gagnait en capacité, il manque un petit peu de raffinement au niveau de ce véhicule-là. Puis l'autre chose qui, tu sais, tantôt on parlait des ampoules qui ne se changent pas n'importe comment. Les Durango en arrière, là, les barres de lumière, ils n'ont jamais solutionné ça. Ça brûle à la vitesse de la lumière. C'est ce qui fait que tu passes une belle barre en arrière. Après ça, whoop, ça fait un petit peu pitié. Cependant, au niveau de l'interface multimédia, c'est grand, c'est gros. Le V8. Puissance exceptionnelle, capacité de remorquage, je l'ai dit, des vraies capacités d'aller hors route, mais attendez-vous à mettre bien du gaz et il manquait un petit peu là, d'éléments de sécurité versus les autres véhicules. Non seulement la maniabilité, ce n'est pas le plus maniable, mais c'est sûr que si tu veux promener la famille en toute vitesse au soccer, vas-y avec ça, envoie trois rangées, l'autre là, puis ils vont perdre leur coiffure aussi en arrivant là-bas.
Mais avec un V6, on peut faire un quoi? Un genre de 12 litres au 100, puis l'SRT, on est dans le 14-15 litres au 100?
Écoute, c'est sûr que la version, la V8, on est effectivement dans le 14 litres au 100. Il y en a qui vont dire, ouais, mais je fais plus exceptionnel que ça. Ça dépend comment tu charges, ça dépend comment tu loads. Une chose est sûre, c'est pas un mauvais moteur, mais c'est pas le plus économique. Si vous voulez aller plus économique, effectivement, aller un petit peu plus avec des versions de base, mais là, rendu là, tant qu'à payer pour ça, moi, j'ai une préférence pour le V8. Là.
OK. On apprécie beaucoup Mathieu Thomassin, chroniqueur automobile. Est-ce que samedi, on va t'apprécier en tant que fleuriste à Sainte-Brigitte-de-Laval?
Oui, monsieur. Et check ça. Mes deux pouces verts sont prêts. Donc, oui, vous me connaissez. Je suis quand même aussi responsable d'une belle communauté. La Maison des jeunes à Barac à Sainte-Brigitte fait un bel événement samedi 24 mai de 8h à midi dans le stationnement du Chalet des Sports. Il va y avoir une vente de fleurs annuelles, de vivaces et mérocales, des plantes de légumes aussi. Ça, c'est moi, mon truc, du macramé fait à la main.
C'est beau avec les plantes, ça.
Ben, c'est ce que je me disais, mais bon, ça, moi, j'en ai jamais fait. Il y a la distribution gratuite aussi de petits arbres. Ça, cependant, ça va être pour les gens, les citoyens de Sainte-Brigitte seulement. Mais non seulement, il y a aussi la présence de Canopée Service Horticole qui va tenir un kiosque éducatif sur les arbres. Venez faire un tour, venez encourager local, venez voir le beau coin de Sainte-Brigitte. Et non seulement, venez voir votre chroniqueur automobile préféré qui va être sur place, qui va vous montrer comment les gaz d'échappement, ben, les plantes s'occupent de gérer ça. Vous allez voir, on pourra en parler, là, c'est green et votre chose. Ou sinon, venez tout simplement encourager la Maison des jeunes de Sainte-Brigitte parce qu'on les a à cœur.
Ben oui, je te félicite de t'impliquer dans ta communauté, mon ami. C'est toujours un plaisir.
Yes, sir. On se dit à une autre chronique. Et qui sait, on parlera justement du camion Slate, mais non seulement de l'essai du Ioniq 9 aussi là, que j'ai été faire la semaine passée. On remet ça la semaine prochaine.
Mathieu Thomasson, on peut te trouver sur Question Auto ou Car Question sur YouTube.
Oui, en plein ça, Question Auto. Le dernier vidéo, d'ailleurs, je vous ai montré un peu un cas 2000 du Ioniq 9. Je vous ai montré la consommation de celui-ci dans l'essai exceptionnel qu'on a fait. Et non seulement les dernières images aussi du nouveau RAV4 sportif. Venez jaser, venez commenter. On répond à tout, tout, tout. Je ne suis pas tout seul. Une chance, j'ai des collègues. Mais dites-vous que c'est là que ça se passe, le monde d'automobile, pour Matt.
Salut, mon ami.
Bye-bye.
13h24, on s'arrête. Merci.